Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le sud de la France en proie aux flammes donc toujours ce matin avec trois gros incendies en cours en ce moment dans l'Aude, dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 1000 hectares de végétation ont déjà brûlé. On va faire un point complet. Voilà dans quel contexte Sébastien Lecornu se rend à Marseille aujourd'hui pour préparer la France à la troisième canicule déjà redoutée. Vous allez l'entendre dans les hôpitaux. Et puis tu triches ou tu pointes? On va vous raconter ce matin ce séisme qui secoue le monde de la pétanque, des soupçons de match truqué. Il y a des stars de ce sport qui ont été interpellés.
Les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin dans le sud de la France.
Oui, plusieurs incendies font rage depuis hier après-midi. Les autorités avaient prévenu avec, vous le savez, 6 départements en alerte maximale pour les risques de départ de feu. Alors le plus important, il a pris dans ce qu'on appelle le Minervois, cette région à cheval entre l'Aude et l'Hérault. Au moins 900 hectares de pinèdes ont déjà brûlé, des maisons évacuées, une fumée qui se voit loin à la ronde. On reçoit vos photos ce matin sur le WhatsApp RMC. Vous êtes sur place, envoyé spécial pour RMC, Philippine Boulet. L'info ce matin, c'est que le feu n'est toujours pas fixé. Alors, on entend le vent, on n'entend pas Philippine Boulet. Philippine, qui n'est pas avec nous ce matin, donc pour cet incendie dans le Minervois qui a déjà brûlé 900 hectares de végétation, de pinèdes plus précisément. Un des feux qui touche en ce moment le sud de la France. Alors, ça brûle aussi dans les Bouches-du-Rhône, avec là deux gros incendies dans les Bouches-du-Rhône depuis hier. Il y en a un feu à Rognac, 50 hectares qui ont brûlé. Ce feu est fixé ce matin, mais on sent la fumée jusqu'à Marseille. Ne soyez pas surpris ce matin si vous vous réveillez. Et un feu aussi à Lançon de Provence, 275 hectares qui ont brûlé. Ce feu s'est réactivé ce matin, attisé par le vent et la sécheresse de la végétation, qui évidemment est un terreau très favorable pour ces feux. C'est ce que nous dit ce matin, on lui a téléphoné Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
Des feux qui commencent extrêmement tôt dans la saison, avec les effets de la canicule. C'est très difficile, puisque ce n'est pas uniquement le pourtour méditerranéen, c'est aussi des départements comme Lyon, qui ont été touchés hier, la Seine-et-Marne, la Nièvre, la Marne, la Loire. C'est très complexe parce qu'on est sur à chaque fois des appels de renfort de zone d'une autre zone. Il y a des sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui en transit du nord de la France vers le sud de la France. On est dans des feux d'espace qui viennent jouer avec l'interface entre le milieu urbain et le milieu forestier, ce qui peut rendre difficile la situation parce qu'on a la nécessité absolue de pouvoir protéger les personnes et protéger des biens.
Et c'est ce qui s'est passé hier dans le Var où un feu a pris au beau milieu de la ville de Fréjus, provoquant l'évacuation de plus de 2000 personnes et quand même de 6 campings, donc en pleine période estivale. Alors c'est d'ailleurs depuis le sud de la France et depuis Marseille précisément que le Premier ministre Sébastien Lecornu va diriger aujourd'hui une nouvelle cellule de crise interministérielle consacrée aux fortes chaleurs et à la troisième canicule là, qui arrive dès ce week-end, nous dit déjà Météo France. Et Louis Salé, vous nous dites qu'elle est redoutée cette canicule dans les hôpitaux, sous tension déjà après les fortes chaleurs du mois dernier.
La semaine dernière, dans le service de Cynthia, infirmière à l'hôpital de Chartres, il n'y avait que 3 ventilateurs pour 29 patients.
On les reprenait pour les déplacer dans d'autres chambres quand on estimait, entre guillemets, que c'était assez pour le patient. C'est quand même inhumain, quoi. On se demande pourquoi ce patient-là plutôt que l'autre. C'est choquant et c'est des choix qui sont très compliqués à supporter, forcément.
Des climatiseurs mobiles ont depuis été commandés, mais une nouvelle canicule risque de fragiliser les équipes, craint Frédéric Adnet, chef du SAMU de Paris.
Nous, on a aussi besoin de récupérer nos forces. Alors, une semaine, ça me paraît trop court. Le personnel est fatigué, extrêmement stressé, parce qu'on a vécu quand même beaucoup de décès, d'arrêts cardiaques.
Les hôpitaux peuvent, si besoin, faire appel à des étudiants, des soignants intérimaires, mais pas question de rappeler le personnel en vacances. Didier Guidoni dirige l'hôpital de Vierzon.
Les congés d'été pour les soignants, on ne les remet pas en cause. Il faut qu'ils puissent en profiter et on est vigilants.
Il espère aussi que le bâtiment tiendra le choc d'une nouvelle vague de chaleur. La semaine dernière, la climatisation des blocs opératoires de son hôpital est tombé en panne.
Alors le dérèglement climatique va-t-il devenir dans ce contexte le sujet de la campagne présidentielle à venir? Ce sera en tout cas la thématique abordée dans la matinée par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon qui propose un nouveau découpage des régions. Pour en finir avec la carte de 2015, les Insoumis, à Lucas Laubert, les Insoumis veulent créer ce qu'ils appellent des éco-régions en fonction cette fois des fleuves et des cours d'eau.
Oui, alors les contours exacts de ces écorégions sont encore à l'étude, mais imaginez par exemple Marseille dans une grande région du sud-est avec Lyon et le Jura, la Bretagne réunie avec les Pays de la Loire jusqu'au Massif central, des régions pensées autour des bassins versants des fleuves pour plus de cohérence écologique, explique Claire Lejeune, députée insoumise de l'Essonne qui travaille sur ce projet.
Une agence de l'eau aujourd'hui, elle va investir à un endroit donné pour dépolluer, etc. Si vous avez en parallèle un préfet de région qui décide de valider l'installation d'une usine en amont du cours d'eau, vous voyez bien que ça va contrecarrer complètement les efforts faits pour dépolluer et assainir l'eau.
Une région dessinée autour des bassins versants des fleuves permettrait donc, selon les insoumis, de simplifier les politiques écologiques. Ces éco-régions ne s'occuperaient que d'écologie et tous leurs moyens financiers seraient dirigés vers cet objectif. Pour Grégoire Delastéry, président délégué à la région Île-de-France, les régions ont d'autres missions qu'il ne faut pas oublier.
Les régions, elles parlent de mobilité, elles parlent de développement économique. Dans le projet de LFI, les régions ne s'occupent plus que de transition et laissent tomber tout le reste. Ça marche pas. C'est pas cohérent.
Pour l'élu, les régions agissent déjà pour la transition écologique. Elles manquent simplement de moyens.
Il faut remettre de l'éthique dans le sport. Voilà donc la réaction ce matin sur RMC de la ministre des Sports, Marina Ferrari, après le coup de tonnerre dans le petit milieu de la pétanque, qui est donc secoué par les soupçons de matchs truqués. 9 personnes interpellées en début de semaine dans le Var et en Gironde. Parmi ces 9 personnes figurent des stars du milieu. Dylan Rocher, Henri Lacroix, ceux qui jouent à la pétanque connaissent forcément ces noms. C'est un tournoi il y a quelques mois qui intrigue, hein, Constance Bostoen.
Le 4 septembre dernier, pendant les Masters de pétanque, l'une des compétitions les plus relevées au monde, l'équipe ultra favorite s'incline en quart de finale, 13-4, contre une autre bien moins expérimentée. La défaite est inattendue, elle fait le bonheur de quelques parieurs qui avaient misé gros. Trop gros pour ce type de compétition. L'autorité nationale des jeux est aussitôt alertée et découvre que ces parieurs sont en fait des proches des boulistes qui viennent de perdre le match. Grâce à ces mises, ils auraient dû empocher 60 000 euros. Mais une enquête est ouverte et ce mardi matin, 9 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, 4 joueurs membres de l'équipe de France. Toutes ont été entendues et sont soupçonnées d'escroquerie en bande organisée et corruption active et passive.
On est à 2 jours du départ du Tour de France à Barcelone. Vous le savez, cette année, il y aura la traditionnelle présentation des 23 équipes en fin de journée. On verra qui gagne à l'applaudimètre, si c'est Paul Sexas, par exemple. C'est une première depuis 2007. Tiens, la France ne sera pas le pays le plus représenté dans le peloton. Pour une fois, on est battu par la Belgique. Il y aura 30 coureurs français et 31 coureurs belges.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bah, puisqu'on en parle, la Belgique, tiens, qualifiée dans la douleur cette nuit pour les huitièmes de finale. 3-2 contre le Sénégal avec un but au bout de la prolongation. C'était chaud aussi pour l'Angleterre qui a sorti la République démocratique du Congo 2-1 grâce à un doublé d'Harry Kane dans le dernier quart d'heure. Et c'était plus tranquille, hein, cette nuit pour les États-Unis qui ont sorti la Bosnie 2-0 dans une belle ambiance que vous entendez. Wow. C'était ici dans une fan zone à Washington. Les Américains, donc, qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale de leur Coupe du Monde. Les 3 pays hôtes, hein, sont qualifiés d'ailleurs. Le programme de la soirée de la nuit prochaine est génial. On va revoir l'Espagne à 21h sur RMC contre l'Autriche. Les Espagnols parmi les favoris qui n'impressionnent personne, hein, pour l'instant. Le Portugal aussi contre la Croatie, ce sera dans, wow, la nuit à 1h du matin. Le duel Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Et ce sera encore une nuit blanche ou alors un réveil très très tôt la nuit prochaine pour les supporters de l'Algérie qui jouera à 5h du matin contre la Suisse.
Match qu'on vous fera vivre en fil rouge, très rouge. Enfin, non, il est à 5h pile. Donc dans le morning RMC demain matin avec Élise et toute l'équipe, on va vous faire vivre Algérie-Suisse avec évidemment nos équipes puisqu'on est radio officielle de la Coupe du Monde. Je crois que vous commencez à le savoir. On a quand même une quarantaine de personnes envoyées là-bas. On a même envoyé Martin Bourdin à une époque, figurez-vous. Essayez d'expliquer la règle du hors-jeu aux Américains. Moi, je vois plein de vidéos sur Internet. Ils n'ont pas compris, Martin.
Je ne veux pas avoir un très bon accent anglais, je pense.
Merci beaucoup, merci Quentin.